Le journal Noël Aluzitu Kabambi.
La lenteur du processus de paix de Goma inquiète le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Alain Doss estime que les déplacés du Nord Kivu ne pourront pas retourner chez eux aussi longtemps que le programme Amani ne sera pas concret. Journée internationale de lutte contre la torture. Le directeur intérimaire du Bureau des Nations Unies pour le droit de l'homme reconnaît que ces pratiques existent toujours dans notre pays. Quelques endroits où se pratique encore la torture à Kinshasa sont aussi dénoncés par la Ligue pour la paix et les droits de l'homme. Plus d'une centaine de bus pour le transport en commun à Kinshasa y sont arrivés hier dans la capitale et c'est un prêt du gouvernement indien à la RDC. Bonjour à tous. Le chef de la MONUC, Alain Doss, se dit inquiet face à la lenteur du processus de paix de Goma. Pour le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, aussi longtemps que le programme Amani ne va pas se matérialiser, la situation des plusieurs familles du Nord Kivu restera fragile. Elles ne seront pas retournées dans leur foyer. Le numéro 1 de la MONUC l'a dit hier, mercredi, au cours de la conférence hebdomadaire de la MONUC à Kinshasa. Les propos d'Alain Doss sont recueillis par Jocelyne Moussaou-Pondé.
Il est impératif que la commission technique mixte sur la paix et la sécurité et ses organes subsidiaires commencent enfin à discuter des questions de fond. Je veux parler ici du calendrier des désengagements, du brassage, du retour des populations chez elles et des nombreuses autres questions importantes que ces organes sont appelés à traiter. Il est indispensable que toutes les parties concernées restent une fois pour toutes assises autour de la table et que les uns et les autres cessent de paralyser le processus de manière récurrente, en suspendant leur participation aux travaux de la Commission sous divers prétextes. Il est aussi urgent que les instances législatives congolaises prennent les dispositions qui s'imposent afin de permettre la mise en œuvre concrète des actes d'engagement et notamment sous la loi sur l'amnistie.
Pour rappel, le 23 janvier de cette année à Goma au Nord Kivu, le gouvernement congolais et tous les groupes armés congolais des provinces du Nord et du Sud Kivu ont signé un cessez-le-feu. Ils se sont dit prêts à désengager puis à désarmer leurs troupes sur le terrain dans le cadre d'un programme appelé Amani, paix en Swahili. Un programme de stabilisation et de développement a été mis sur pied avec l'aide de la facilitation internationale. 6 mois après, plusieurs accrochages ont été signalés entre les parties signataires de ces engagements de Goma. Le dernier cas de violation des engagements en faveur de la paix enregistré est celui du 18 juin dans la localité de Mutabo, au Nord Kivu, entre troupes gouvernementales et les éléments de Laurent Kunda. Le dimanche 9 mars, les représentants des groupes armés signataires de l'acte d'engagement de Goma ont adopté le chronogramme des activités du programme Amani. Depuis, les questions relatives au calendrier de désengagement des troupes, du brassage et du retour des déplacés n'ont pas été abordées, d'où l'inquiétude d'Alain Doss. Autre source d'inquiétude d'Alain Doss et des Nations Unies, les nombreux rapports sur des violences, notamment sexuelles, infligées à des milliers de Congolais expulsés d'Angola ces derniers temps. Jacques-Yves Molima.
Dans plusieurs rapports dont disposent les Nations Unies, rapports obtenus sur base de témoignages, ces violences sont attribuées aux forces de sécurité angolaises et congolaises postées le long de la frontière entre les deux pays, affirme Alain Doss. Depuis la fin du mois de mai, plus de 30 000 Congolais ont été expulsés des régions minières d'Angola, frontalières de la RDC. Dans les lots de 6 263 expulsés enregistrés du 31 mai au 16 juin en cours au Kasaï occidental, 563 femmes ont déposé plainte pour des violences sexuelles, a précisé la porte-parole ad intérim de la MONUC, Sylvie Van den Windenberg. Alors que dans le Bandundu, outre les cas de viol, plus de 2500 expulsés s'étaient plaints des sévices corporels lors des fouilles. Les Nations Unies invitent donc les autorités angolaises et congolaises à chercher des solutions pour éviter les conséquences humanitaires graves qu'entraînent de telles expulsions, a plaidé Alain Doss.
Dans le chapitre de la justice, sachez que Jean-Pierre Bemba était personnellement hier, mercredi, devant les juges belges. Au cours de l'audience, le chef du MLC a rassuré la Chambre des mises en accusation sur sa crédibilité d'homme d'État, excluant toute crainte de sa fuite. Il a donné toutes les garanties possibles en vue de bénéficier de la liberté provisoire. Les juges l'ont entendu et lui ont promis la réponse d'ici à demain vendredi, selon Maître Aimé Kilolo, l'un de ses avocats. Les pratiques inhumaines et dégradantes existent toujours en RDC. Déclaration hier à Radio Okapi du directeur intérimaire du Bureau des Nations Unies pour le droit de l'homme. C'est en marge des manifestations commémoratives de la 11e journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Cette journée tombe le 26 juin de chaque année. Elle est instaurée depuis 1997 par les Nations Unies pour marquer la reconnaissance de l'illégalité absolue et universelle de la torture comme de tout traitement inhumain ou dégradant. Louis-Marie Bouaka le dit au micro de Jacques-Yves Moulima.
Si on considère bien le rapport du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme et des ONG congolaises des droits de l'homme, il y a bel et bien des pratiques qui sont encore pratiquées ce qu'on voit.
Torturer quelqu'un, c'est aussi l'arrêter illégalement?
Pas nécessairement. Il peut y avoir une arrestation légale et que la personne arrêtée puisse subir des actes de torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants.
Et c'est ce qui est toujours dénoncé en RDC par des associations de défense des droits de l'homme?
Effectivement, ces associations dénoncent sans complaisance toutes les formes de torture.
Et qu'est-ce que vous faites?
Nous rapportons aux autorités compétentes pour que des mesures correctives soient prises pour pouvoir éradiquer cette pratique.
Par ailleurs, le directeur intérimaire du Bureau des Nations Unies pour le droit de l'homme a saisi l'occasion pour annoncer que son bureau s'engage désormais à prendre en charge les frais médicaux et l'accompagnement judiciaire des victimes de la torture en RDC. De son côté, la Ligue pour la paix et les droits de l'homme, LIPADO, a dénoncé quelques endroits dans la capitale où les tortures sont monnaie courante. Le secrétaire général de cette organisation de défense des droits de l'homme ne s'arrête pas seulement à dénoncer, mais demande aussi que le gouvernement congolais applique ses engagements internationaux en faveur des conventions sur la torture. Floribert Sezabo est au micro de Jacques-Yves Moulima.
Surtout ici sur la ville de Kinshasa, il y a des lieux de détention où même les gens de la Monique, même nous les activistes des droits de l'homme, nous n'avons pas accès.
Vous pouvez citer?
C'est connu de tout le monde. Voyons l'exemple de la Circo. Là, on torture sérieusement les gens. Il y a le cas de GLM. Il y a Kinmazière. Là aussi, Dieu seul sait comment les victimes passent à tabac pour qu'on puisse leur faire avouer ce qu'ils ont eu à faire, même s'ils n'ont pas commis réellement les méfaits qu'on leur reproche. Que notre pays applique réellement ses engagements internationaux vis-à-vis des conventions sur la torture et que les lieux de détention illégaux puissent disparaître de la carte de notre pays.
Au Sud Kivu, fin hier de l'atelier de deux jours qui réunissait à Bukavu plusieurs acteurs et chercheurs du domaine de la conservation de la nature. Ces derniers qui s'intéressent aux forêts des massifs d'Itombwe dans le territoire de Mwenga ont réfléchi sur comment faire légalement de ces forêts une réserve naturelle compte tenu d'importantes richesses qu'elles renferment en faune et en flore. La population de ce milieu ne s'oppose pas du tout à ce processus déjà en cours, mais dit ne pas se retrouver dans la gestion de ce patrimoine. Un chef coutumier d'Itombwe s'exprime. Prime au micro de Jean-Baptiste Ntonga.
Normalement, il est impérieux de garder le massif d'Itombwe dans une réserve, dans le sens que ça intervient pour la conservation de la génération future qui vient. La multiplicité des animaux, des différentes sortes d'arbres, le biosphère, tout ça, il est temps de pouvoir songer à la conservation de ces massifs. Il aurait fallu associer la gestion de la conservation de ces massifs au BAMI. Nous revendiquons à ce que les BAMI prennent la charge de la sauvegarde, prennent la charge de la conservation et que l'UICN vienne en position d'appui et conseil comme un organisme pour l'appui et conseil.
Okapi. Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Mireille Bukasa, allons avant tout au Kasaï occidental. L'association locale des commerçants d'Ilebo à Silensigle accuse l'administrateur du territoire d'empiéter plus d'une fois sur ses droits.
La CIL illustre cela par la dissolution de son comité dirigeant. L'administrateur de territoire estime que la décision qu'il a prise permettra de mettre fin à l'insubordination, décision qui consacre la fermeture du marché local au profit de la kermesse à partir du 29 juin prochain. Désiré Masumbuko ajoute que la tenue annuelle de la kermesse à Ilebo n'est qu'une réponse à un ordre de sa hiérarchie.
Parlons de 118 bus pour le transport en commun à Kinshasa, ce prêt du gouvernement indien au gouvernement congolais est arrivé ce mercredi dans la capitale.
Et c'est la société City Train qui a été choisie par le ministère des Transports et Voies de Communication pour gérer ces bus. Bus dont les recettes générées vont aider au remboursement de la dette et aussi à la prise des charges d'exploitation. De marque indienne Ashok Leyland, ces bus ont une capacité de 59,28 et 14 places assises. Nadine Foula.
des couleurs bleues avec une barre chaude. Ces 118 bus viennent assouplir le problème des transports en commun dans la capitale. C'est en ces termes que s'est exprimé le chef de la délégation indienne, Gopal Pillai. La République indienne a aussi pensé aux pièces de rechange pour une durée de 3 ans, ainsi qu'à la réparation de certains bus stuck en panne. Le ministre du Transport, Mwando Simba, s'est dit très satisfait de ce partenariat entre les deux pays.
Vous réalisez l'importance de l'action qui vient de se passer pour la capitale. Ceci est un lancement d'un projet important et qui va renforcer la coopération entre nos deux gouvernements.
La gestion de ces bus confiée à la société Cititrain donne un nouveau souffle à cette société qui ne fonctionnait plus depuis près de 5 ans. L'ADG de Cititrain, Christian Ukurango, s'exprime sur la façon dont il compte gérer ces bus.
Nous avons reçu des directives précises pour l'exploitation de ces bus et ces plans prévoient des systèmes d'exploitation, les systèmes ordinaires où les bus s'arrêtent au niveau des arrêts et des terminus et les systèmes express où les bus ne quittent qu'un terminus vers un autre terminus.
Par la même occasion, l'ADG de la SONAS a remis un lot de vignettes au ministre de Transport. Ceci pour épargner ces bus du bouclage des véhicules non assurés.
Au Katanga, en l'espace d'une année, le taux de séroprévalence du sida chez les professionnels de sexe est passé de 2,3% à près de 24%.
Le ministre provincial de la Santé l'a déclaré hier mercredi à Radio Capi. Ce dernier se dit tout de même inquiété par ce taux, même si sur l'ensemble de la population de la province du Katanga, le taux de séroprévalence du sida est de 5,4%. Docteur Augustin Joloko donne les raisons de la montée de cette séroprévalence au micro de Madeleine Waila.
Il y a un flux migratoire entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Le transfert de toutes les pathologies et particulièrement les VIH-SIDA. Vous avez également le phénomène mining, avec ce presque 240 entreprises qui sont arrivées ici au Katanga, a fait appel à une main-d'œuvre étrangère qui vient de la Zambie et ces gens viennent en célibataire. Quand ils arrivent ici, ils transmettent également leurs maladies, notamment le VIH-SIDA.
De Brazzaville en République du Congo, nous apprenons que les chanteurs Passi du Congo-Brazzaville, Fally Ipupa de la RDC et Jacob Desvarieux des Antilles viennent de produire une chanson intitulée « Désarmons nos cœurs », appelant les jeunes du Congo-Brazzaville à remettre les armes qu'ils détiennent illégalement. Le PNUD qui a financé cette œuvre musicale veut atteindre et inciter le plus de personnes possible à remettre les armes dans le cadre de son projet de collecte d'armes pour le développement. Le disque, qui n'est pas à vendre, a été présenté hier mercredi. Dit à Brazzaville par l'artiste musicien Passi, Arsène Severin.
Désarmons nos cœurs, tel est le titre du single que Passi, Fally Ipupa, Jacob Desvarieux, trois ambassadeurs de bonne volonté du PNUD ainsi que certains musiciens de Brazzaville comme Roga Roga ont produit. L'œuvre a été présentée hier à Brazzaville. La chanson a été composée dans le but de sensibiliser ceux qui détiennent encore les armes afin de les rendre. C'est pourquoi la production du disque a été entièrement soutenue par le PNUD, notamment le projet Collecte d'armes pour le développement PK. Ce projet vise d'ici 2009 la collecte de 3000 armes détenues encore par les civils. Présentant l'œuvre phonographique, Passi a appelé tous les civils à remettre les armes et à travailler pour le développement du pays. Très intéressé par l'initiative, l'Angola pourra inviter les trois artistes à faire autant à Luanda. Arsène Severin, Brazzaville, Radio Capi.
Hors de la RDC, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a pressé les rebelles ougandais de l'armée de résistance du Seigneur, ELERA, de libérer les femmes et les enfants enlevés dans des pays voisins. L'armée de résistance du Seigneur doit de toute urgence fournir une liste complète comprenant les noms et âges des femmes et enfants qu'il détient dans ses rangs pour vérification et de procéder à leur libération immédiate, écrit M. Ban dans un rapport au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans ce rapport, le secrétaire général des Nations Unies demande au groupe de travail de l'ONU en Ouganda de surveiller avec les pays voisins les actions des rebelles ougandais qui recrutent des enfants dans les pays limitrophes et en abusent. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, estime à plus de 25 000 le nombre d'enfants kidnappés par la ELERA pour en faire des combattants ou des esclaves sexuels depuis qu'elle a pris les armes dans le nord de l'Ouganda il y a 20 ans. Mais il n'existe aucun chiffre exact comme en ce qui concerne les enlèvements des femmes. En sport, la RDC sera présente aux Jeux olympiques de Pékin 2008 que dans trois disciplines, à savoir l'athlétisme, la boxe et le judo. L'information a été donnée hier à la presse par le président du comité olympique congolais, Jean Beyawaka Bengu. 11 disciplines s'étaient inscrites au départ lors de pré-qualification. Mais à 40 jours du coup d'envoi de ces Jeux, le comité olympique congolais attend toujours du gouvernement les moyens financiers afin de préparer la participation de la RDC. C'est par cette note sportive que prend fin ce journal. Vous pouvez le retrouver, mais aussi d'autres informations des Radio Okapi sur www.radiookapi.net. Okapi.